franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, Philippe Kourilski et Geneviève Héry-Arnaud nous racontaient la transmission du microbiote de la mère à l'enfant au moment de la naissance.
C'est au moment de l'accouchement et du coup, d'où la question pertinente de savoir si le bébé né par césarienne va-t-il avoir le même microbiote. Et la réponse est non, il n'a pas exactement le même. D'où maintenant des hypothèses, des soupçons, c'est pas encore bien prouvé, que ça pourrait être lié à des allergies, par exemple, particulières. Mais on est dans l'ère du soupçon, là.
Ouais.
Mais la question est pertinente et il est à peu près établi que le microbiote d'un bébé qui est né par césarienne n'est pas exactement le même que celui de son jumeau qui serait né par naturellement.
Est-ce que ça veut dire que le système immunitaire de cet enfant né par césarienne aussi sera différent alors ?
Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'organisme se développe en même temps que son microbiote. Donc par exemple, par des expériences chez la souris, on sait que le cerveau de la souris ne se développe pas correctement si le microbiote n'est pas là. De la même manière, le microbiote de l'enfant se développe, et puis il y a des vagues successives, et puis il mûrit, et puis donc le microbiote de l'adulte n'est pas tout à fait le même que celui de l'adolescent, qui n'est pas celui le même que celui de l'enfant, qui d'ailleurs n'est pas non plus le même que celui de la personne âgée. Donc il y a une gradation dans l'évolution de ce microbiote, et donc à chaque étape, on peut se poser des questions sur les relations.
Donc Geneviève Héry-Arnaud, au moment de l'accouchement, lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, il est doté de son bouclier bactérien, comme ça ?
Comme ça, oui, grâce à l'accouchement. Mais effectivement, le passage par la filière génitale est une étape primordiale, en fait, pour l'installation des bactéries qu'on dit pionnières, qui ont un rôle vraiment fondamental sur la santé future du bébé. Et donc, il va se coloniser avec des bactéries qu'on appelle des lactobacillus. On parle aussi de fleur d'eau de Darlene. Donc, toute cette fleur qui existe naturellement au niveau de la muqueuse vaginale fait partie, en fait, des premières bactéries qui vont coloniser l'enfant.
Mardi, Mathilde Laurent et Roland Salès s'intéressent aux mauvaises odeurs.
C'est très important de parler de la puanteur, et la puanteur, pour moi, elle fait partie de la ville. Et vouloir cacher la puanteur, ou vouloir cacher les odeurs, comme on le fait à l'heure actuelle dans les villes, en voulant tout odoriser, pour moi, c'est très symptomatique d'une fuite en avant un petit peu par rapport à l'odeur et par rapport à l'humanité.
Oui.
C'est un peu nier son humanité, et puis nier aussi sa propre pollution. Et
oui,
je trouve que c'est plus important de traiter la pollution que de la couvrir par des bonnes odeurs.
Oui. On en parlait hors antenne juste avant que l'émission commence, justement. Certaines personnes ont l'impression de sentir des mauvaises choses, enfin, avoir autour d'eux, en tout cas, un environnement qui pue en permanence, Roland Salès. C'est un nom très particulier.
Alors, on appelle ça la cacosmie. Alors, par référence, on peut parler de la cacophonie, qui est d'entendre des bruits désagréables. Les gens sentent en permanence des odeurs qui leur semblent mauvaises, alors que les produits odorants ne sont pas là, dans l'environnement.
Ouais.
Donc c'est vraiment un problème neurologique, c'est pas du tout un problème de nez.
Aimer ces odeurs mauvaises, enfin celles que nous, comme un des mortels, nous percevons comme mauvaises, en tout cas Mathilde Laurent, vous dites à quel point c'est important justement de les apprécier aussi.
Tout à fait, parce que c'est les odeurs de la vie, et qu'il n'y a pas de création sans... C'est comme si on se disait que pour faire un joli tableau, on va prendre que des jolies couleurs. Alors qu'un tableau, c'est souvent une reproduction réelle ou sublimée de la réalité, et on a besoin de toutes les couleurs pour pouvoir décrire quelque chose qu'on l'ait imaginé ou qu'on le voit devant soi. Et en parfumerie, c'est exactement la même chose. Et le titre du livre de Roland dit très bien les choses. Faut-il sentir bon pour séduire ? Moi, je pense que justement, non. Et qu'il n'y a pas de séduction sans aussi les odeurs de la vie.
Ah, alors Roland Salès, votre avis sur la question, justement, répondez tout de suite à votre propre titre.
Je vais compléter.
C'est très subjectif.
Oui, alors c'est complètement subjectif. Alors je voulais dire une chose d'abord, c'est que par exemple, il y a beaucoup d'odeurs de fleurs, enfin de parfums de fleurs, qui sont composés avec des produits qui, par eux-mêmes, sont très malodorants. Le scatol, par exemple, comme son nom l'indique, ça sent le caca. Bien, le scatol, il y a beaucoup de parfums de fleurs où il y en a un petit peu, et ça souligne très souvent, ça donne de l'ampleur, de l'épaisseur au parfum, et on apprécie ces odeurs.
Et c'est indispensable.
Voilà.
On ne peut pas reconstituer une fleur avec plein de molécules odorantes si on ne met pas, justement, ce scatol ou cet indole qui fait partie de l'odeur de la fleur.
Voilà. Mercredi, Alexandre Jost et Sébastien Boller nous expliquaient les liens entre le bonheur au travail et la croissance du PIB.
Vous avez entendu ces deux chiffres. Le premier, c'est 3% de PIB, de points de PIB liés au stress au travail, étude du Bureau international du travail. Et une autre, d'après l'économiste Olivier Pastré, qui s'inspire de Victor Vaknin au sein de la fabrique, et qui nous dit Et en fait, si on améliorait de 10% la qualité de vie au travail, on pourrait générer un point de croissance du PIB en plus. Est-ce la bonne croissance? Je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, vecteur de performance fort, c'est certain.
Sébastien.
Ah oui, les phénomènes de créativité sont observés même dans le cerveau par Barbara Fredrickson, qui montre que quand on est heureux, on ne pense pas de la même façon. Elle a montré qu'il y a des parties du cerveau comme l'amygdale qui commencent à s'éteindre et d'autres zones de l'attention qui commencent à s'embraser dans notre cerveau, si bien que notre champ attentionnel s'élargit. Nos pensées deviennent plus vastes, plus diverses et ça favorise la créativité. Donc est-ce que le bonheur au travail va relancer la croissance? Ça va dépendre un peu du type d'activité dont on va avoir besoin. Plus de créativité ou plus de focalisation sur des tâches dures en situation de crise? En situation, je prenais la bataille d'Angleterre en 1940-42, c'était pas le bonheur qui a permis de surmonter. Donc ça va être la question vraiment du niveau critique dans lequel on se trouve. On peut encore espérer que c'est les émotions positives qui, en déclenchant la créativité, peuvent vraiment relancer l'économie.
C'est vrai, je suis globalement d'accord, mais même il y a des émotions positives qui sont bonnes en situation de crise. Si vous avez besoin d'être vigilant par rapport à un danger, il vaut mieux être dans un état d'émotions positives. Et on s'aperçoit que les gens joyeux et optimistes sont plus à même de détecter les problèmes, les choses qui ne vont pas, que les gens qui sont pessimistes et qui ne se sentent pas bien, parce que finalement, ils savent qu'ils trouveront des ressources pour des solutions à ces problèmes qu'ils viennent d'identifier.
Et puis jeudi, Serge Tisseron et Rodolphe Gélin décryptaient la fonction socialisante des robots.
C'est le robot qui incitera l'humain à entrer en contact avec d'autres humains. Les programmes que j'appelle socialisants, voilà, et j'espère que les roboticiens, vous allez nous le dire, réfléchissent à ces questions-là de manière à ce que nos robots nous invitent à entrer en contact avec d'autres humains, aller sur Internet, nous expliquent comment y aller mieux, échanger des informations.
Mais c'est quand même fou d'avoir besoin de robots pour ça, non?
À partir du moment où un robot
sera chez quelqu'un... L'humain n'est pas capable de le faire tout seul.
Non, beaucoup de personnes âgées n'en sont pas capables, et même sans parler des personnes âgées. Mais que le robot soit un assistant pour entrer en contact avec d'autres humains, si ça pouvait se faire, déjà je serais rassuré.
Oui, c'est vraiment quelque chose auquel on a déjà pensé, hein, où les personnes qui s'occupent des personnes âgées nous disent « il faut que votre robot dise « ça fait longtemps que tu n'as parlé à personne, appelle donc tes enfants ». Et on a déjà vu chez les enfants autistes qui travaillent avec Nao, des rapprochements entre enfants autistes autour du robot. Et donc, alors ça s'est fait un peu malgré nous, hein, je ne dirais pas qu'on l'a fait exprès, mais voilà, et on a vu que le robot était devenu un moyen pour des enfants qui ne se communiquent pas entre eux de communiquer.
Oui, alors je connais bien ces programmes, hein, je travaille dans un hôpital de jour, où on est en train d'implanter un Nao justement parmi les autistes, mais je pense qu'aujourd'hui, les robots sont mis dans des espaces publics, un foyer pour personnes âgées, une maison de retraite, une école, un hôpital de jour, et un robot dans un espace public, il devient un élément de médiation, d'interrelation formidable. Toute la question, c'est lorsque les robots seront installés chez une personne isolée, c'est-à-dire que là, on aura le duo homme-robot.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr ou à la page de La Tête au Carré.